Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. En lisant le nom du premier organisme invité aujourd'hui, vous avez peut-être pensé qu'on commence à se répéter. Parce que le 17 février dernier, nous avons reçu la Maison des petits tournesols qui offre des services d'accompagnement aux enfants et adolescents qui vivent un deuil à la suite du décès d'une personne significative. Cette semaine, par contre, il n'y a pas de petits dans le nom, c'est la Maison des tournesols. Il n'y a pas de petits parce qu'on ne s'adresse pas aux petits, on s'adresse en fait aux gens qui sont dans le haut de la pyramide d'âge, les personnes âgées. En 2021, 20,5% de la population avait plus de 65 ans et en 2030, on estime que ce pourcentage passera à 25%, soit une personne sur quatre au Québec. Et parmi ces personnes âgées, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. De nombreux organismes s'en préoccupent, dont la Maison des tournesols que nous recevrons aujourd'hui, qui offre de l'accompagnement à plusieurs aînés de la Rive-Sud. On reçoit la directrice générale, Marie-Claude Richer, qui s'inquiète de notre manque de préparation collective face au vieillissement. En seconde partie des Héros anonymes, un organisme qui s'appelle l'Anonyme, mené par un héros, le directeur général Julien Montreuil, qui a débuté comme itinérant dans la caravane de l'Anonyme que vous avez peut-être vu sillonner à travers Montréal. Leur mission est claire, que personne ne meure suite à une infection transmise sexuellement et par le sang. Malheureusement, les ITSS sont en hausse au Québec, de même que les surdoses. C'est une statistique alarmante que nous avons appris le 20 janvier dernier alors que nous recevions l'organisme Spectre de rue. Avec l'Anonyme, nous poursuivons la discussion tout en insistant sur la promotion des comportements sécuritaires et des relations égalitaires. C'est le programme de cette 12e émission de la troisième saison des Héros anonymes. On fait une courte pause pour installer en studio notre première invitée, Marie-Claude Richer, la directrice générale de la Maison des tournesols. Lorsque notre recherchiste Catherine Bourderon a contacté notre invitée, elle lui a demandé « Marie-Claude Richer, pensez-vous que collectivement nous sommes assez préparés pour le vieillissement de la population? » Et Marie-Claude a répondu un « vraiment pas ». Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Chantal.
Oui, hein, ça a été vraiment un cri du cœur que dire on a beaucoup de rattrapage à faire là, pour... justement s'assurer qu'on soit prêt face à la vague de vieillissement de la population.
C'est un peu comme si on se retrouvait devant une grosse surprise annoncée depuis toujours, mais pour laquelle on n'a pas réussi à bien se préparer, même si on savait que ça s'en venait.
Oui. J'oserais dire que c'est un petit peu la même chose avec la pénurie de main-d'œuvre. Depuis des années qu'on parle de la pénurie de main-d'œuvre et là, tout à coup, tout le monde est surpris que ça arrive. C'est comme, on a comme l'impression que ça n'arrivera jamais, mais les chiffres étaient là pourtant.
Et la réalité nous rattrape, la réalité d'un manque de services, un manque de financement, de rattrapage qui doivent être opérés tous les jours.
Oui. On va parler de ce que la Maison Tournesol fait, parce que là, une petite précision, on enlève le « dé » au tournesol. Donc, pas de petit tournesol, pas des tournesols, c'est la Maison Tournesol. Bon, on va parler évidemment de ce que vous faites, mais juste avant, peut-être mettre la table sur à quel point on doit s'en préoccuper, parce que je disais d'entrée, on parle de 20,5 actuellement, qui va aller vers 25. On pourrait penser que 4,5 d'augmentation, C'est pas si beaucoup, mais ça représente énormément de gens.
Oui, dans notre quotidien, pour les organismes communautaires, mais aussi pour le réseau de la santé au Québec, ça représente une grosse différence.
On parle d'à peu près combien de personnes là, de plus qui vont un petit peu à 4,5. On fera nos mathématiques plus tard, mais on s'entend que c'est vraiment beaucoup de gens. Donc, à quel niveau là, on n'est pas prêt?
On n'est pas prêt dans l'accompagnement des gens dans le vieillissement en santé et normal, mais encore moins prêt dans l'accompagnement des gens quand les choses sont plus difficiles. Et là, je pense évidemment aux atteintes cognitives qui vont toucher certaines de nos personnes aînées. Et parfois, mais ce qu'il y a d'épouvantable, c'est que ces maladies-là, on réalise aujourd'hui qu'elles ne touchent pas toujours des gens qui sont nécessairement âgés, qu'il y a des gens plus jeunes que ce qu'on pense qui ont des atteintes cognitives et qui doivent mettre en place des services pour pallier aux besoins qui viennent avec ça.
Quand on entend atteinte cognitive, souvent, on va penser à la maladie d'Alzheimer, mais c'est beaucoup plus large que ça.
C'est beaucoup plus large que ça. Il y a d'autres atteintes, mais la maladie d'Alzheimer, c'est comme le bon ambassadeur. Mm. Les gens connaissent bien, en tout cas, ont une idée. Ça résonne chez les gens. Donc, oui, c'est une des formes d'atteinte cognitive, oui. Mais il y a d'autres maladies qui sont parfois plus pernicieuses encore.
Et pernicieuses en quel sens?
Dans le sens où on se doute pas, mais il y a de ces atteintes-là qui viennent avec des douleurs physiques, des raideurs. Mmh. Alors, les gens sont souffrants physiquement et parce que les atteintes viennent toucher au niveau verbal, ben ils n'ont pas toujours la possibilité de l'exprimer aussi bien qu'ils l'auraient fait avant d'avoir cette maladie.
À la Maison Tournesol, vous avez particulièrement des implications auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais je pense que ça couvre beaucoup plus large. On est dans les personnes de 65 ans et plus.
Oui, bien, on a différents services. Ce dont on parlait jusqu'à maintenant se fait, notre travail se fait via le service de répit, mm-hmm. où on va offrir principalement à l'aidant d'une personne ayant des atteintes cognitives un service de répit pendant une journée en format halte. Donc, les gens vont venir passer la journée avec nous, ce qui fait que l'aidant qui a envie de rien faire dans son salon toute la journée a la possibilité de vivre comme ça son répit. Il n'est pas obligé de courir, s'isoler au petit café du coin. Mm-hmm. Il peut se reposer chez lui.
Ouais.
Ça, c'est un des services. On a aussi le programme Journée entraînée, où là, ce sont des activités pour briser l'isolement des personnes âgées qui n'ont pas d'atteinte cognitive, mais qui ont tous les autres besoins.
Qui se sentent seuls.
Qui se sentent seuls, mais qui vont avoir des défis au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau des déplacements aussi, qui ont envie de cette communauté-là où on crée des liens, mais où ensemble, on reste actif au niveau physique, on va faire des exercices au niveau cognitif pour rester dans l'action, pour vieillir le mieux possible, pour que ultimement, on puisse le faire dans le milieu qui correspond à notre choix, donc dans notre chez-soi.
Et là, on comprend que c'est vraiment un centre de jour. Il n'y a personne qui habite là à temps plein. C'est vraiment un centre de jour que l'on fréquente. À quelle fréquence, à quelle période?
Bien, dans toutes nos activités, les gens sont invités à venir une fois semaine. Donc, si je suis inscrite le mardi, je viens tous les mardis, mm-hmm. tout au long de l'année. Oui, c'est ça, pour ces deux services-là. Ensuite, ce qu'on offre aussi, c'est les repas. Avec la pandémie, on a réalisé qu'il y a beaucoup de nos participants qui étaient confinés chez eux, qui ne pouvaient plus sortir faire l'épicerie et qui étaient en train de mourir de faim parce que il n'y avait pas de famille
proche. En train de mourir de faim.
Ah, il y en a qui me disaient, il me reste deux carottes dans le frigo.
Ah oui? Et puis, c'était pas une question financière.
Pas nécessairement. Non, c'était pas une question financière. Donc là, On a rappelé nos bénévoles qui n'avaient pas 70 ans, qui avaient toujours le droit de s'impliquer.
Oui.
Et ils sont venus faire avec nous des repas qu'on a offerts à nos membres isolés en format congelé. Donc, c'est pas une
pas vos membres, là.
Non, non, pas nos membres en format congelé. Les repas en format congelé. Donc, c'est pas l'équivalent d'une popote comme ce qu'on connaît qui est offert dans les centres d'action bénévole. Oui. Mais c'est pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus grands.
Quand j'entends ça, les deux carottes, je peux pas m'empêcher de penser où sont les amis, où sont la famille, où sont les voisins même.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui vieillir, ça vient avec solitude. Dans notre société individualiste, c'est pas tout le monde qui pense à aller prendre des nouvelles du voisin. Et la facilité des déplacements fait en sorte que parfois nos enfants habitent cette île.
Oui.
Sont partis parce que la nature était belle dans ce coin-là. Puis nous, on reste plus en banlieue, isolés, avec des contacts téléphoniques, mais qui ne permettent pas de remplir un frigo.
C'est pas ça qui remplit le frigo, en effet. Je sais que vous êtes un peu inspiré ou en tout cas animé par l'approche de gériatrie sociale. J'ai eu l'occasion, dans une autre émission, au fil du temps, de recevoir le docteur Stéphane Lemire de la Fondation Âge. J'ai vraiment vu chez cet homme-là qu'est-ce que c'est avoir des étoiles dans les yeux. Donc, peut-être nous parler dans vos mots de qu'est-ce qui est l'approche de gériatrie sociale.
Donc, à la Maison Tournesol, on fait la gériatrie sociale en souhaitant que notre communauté devienne bienveillante auprès des personnes âgées et que ça prenne la forme d'un œil attentif aux signaux d'alerte d'un vieillissement qui serait inhabituel, qui pourrait nous inquiéter et afin d'intervenir avant qu'il soit trop tard, avant que la personne âgée se retrouve à l'urgence, à l'hôpital, parce que son état de santé a tellement dépéri, puis il y a tellement personne qui n'a rien fait, qu'on se retrouve au bout de la ligne à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on ne souhaite pas à personne?
Qu'est-ce que c'est un vieillissement inhabituel?
Bien, on a identifié la Fondation Ange a identifié différents signes au niveau de plusieurs domaines. Donc, l'état d'éveil, comment est-ce qu'on s'alimente, l'état de la peau, la routine dans la journée, l'évacuation. Donc, toutes sortes de domaines où les personnes sentinelles, donc les personnes à l'affût des signaux qui pourraient être inquiétants chez les personnes âgées, ces personnes bienveillantes vont entrer en contact avec toujours en tête ces signaux-là et vont lancer des alertes aux navigateurs, navigatrices, qui, eux, vont contacter la personne.
Donc, quand j'entends sentinelle, navigateur, ce sont des rôles qui ont été établis dans la gériatrie sociale?
Absolument. Tout ce qu'on fait dans ce domaine-là s'inspire vraiment de la Fondation Ange et du travail de l'équipe du Dr Lemire.
Excellent. On fait une courte pause, Marie-Claude Richer, et on revient tout de suite après parler davantage des services et surtout de l'impact de la Maison Tournesol.
Merci.
De retour en studio des Héros anonymes, nous sommes avec la directrice générale Marie-Claude Richer, directrice générale de la Maison des Tournesols, qui offre, en fait, qui est un centre jour accompagnement des aînés de la Rive-Sud et qui offre également un programme de répit pour les aidants naturels. On en a un petit peu parlé en première partie. À partir de quand on est un aidant naturel?
Bien, pour nous, on est probablement tous un peu aidants dans notre vie dès qu'on prête attention à notre prochain. Mais en ce qui concerne les personnes âgées, bien, ça dépend. Il y a plusieurs formes d'aidance. On peut être aidant de quelqu'un qui vit avec soi ou de quelqu'un qui ne vit pas chez, avec qui on ne partage pas un espace d'habitation. Mais dès qu'on a la tâche de prendre soin, pour nous, on est considéré comme un aidant.
Donc, est-ce que vous parliez tout à l'heure qu'on vient une fois par semaine? Est-ce que c'est la même chose pour le programme d'aidants naturels?
Pour le répit qu'on offre, c'est une fois semaine, oui. Et comme c'est un service qui est beaucoup demandé, bien, on est tout à fait conscient que le besoin est beaucoup plus grand. Puis, on sait très bien que les aidants vont être à la recherche de différentes formes de répit pour ajouter à leur pause. Parce que souvent, être aidant naturel d'une personne âgée qui a des atteintes cognitives, mais ça vient avec de l'inquiétude de nuit parce que la personne fait de l'errance.
Oui.
Donc, le cycle du sommeil n'est pas le même. L'aidant va s'inquiéter la nuit, va souvent se promener avec son proche pendant la nuit. Donc, la période de sommeil est écourtée. Donc, plus il y a de services pour accompagner ces gens-là, mieux ils vont se porter. Mais les besoins sont encore immenses.
Et là, malheureusement, on a donné des statistiques en ouverture de l'émission qui comprennent que malheureusement, vous êtes appelés à une grande expansion.
Oui. Bien, il y a 2 ans, nous, on a presque doublé notre capacité d'accueil en répit. Oui, parce que c'était très chamboulant d'accueillir des besoins criants de personnes qui sont rendues au bout du rouleau, mais à qui on devait dire, bien, malheureusement, il y a un temps d'attente. Et on avait la possibilité de réutiliser une salle, la transformer pour qu'elle devienne aussi un milieu d'accueil pour le répit. Et c'est ce que le conseil d'administration a décidé de faire il y a 2 ans. Ce qui fait que maintenant, à nos 30 places semaine, on a ajouté 24 places.
Parce que vous parlez du temps d'attente, puis vous disiez en première partie que finalement, si on attend trop longtemps, on est rendu à un point où là, on est presque rendu en CHSLD.
Bien, c'est ça. Il y a un temps où on peut accueillir les gens en répit parce que chez nous, bien, ça s'appelle la maison tournesol, mais il n'y a pas un seul lit. Donc, on est un milieu de vie.
Oui.
On est installé comme dans votre maison à vous, Chantal. Là, il y a un coin cuisine, il y a un coin salle à dîner, il y a un coin salon. Ce qui fait que quand l'aidant nous confie son proche, il n'est pas du tout inquiet. Il n'arrive pas dans une institution, dans un hôpital.
Il y a quelque chose de chaleureux, de convivial, qui rappelle un peu le bonheur d'être en famille, d'être dans une maison. Hein. Ça s'appelle la maison tournesol, donc il faut se sentir à la maison.
C'est ça. Et en offrant ça, en doublant cette offre-là, on répond à de plus en plus de gens qui ont la capacité de venir chez nous parce qu'ils doivent toujours être capables de se déplacer, de bouger, d'aller vers la salle de bain.
Oui.
Parce qu'on va pas, en étant un milieu aussi naturel que possible, on n'a pas les adaptations médicales qui viendraient avec des changements au lit. On est dans un environnement très naturel.
Et vous êtes au cœur d'un réseau de partenariats. Donc, on parlait tout à l'heure des sentinelles qui sont finalement des gens comme vous et moi qui sont alertes à les signaux dont on parlait. Mais j'imagine qu'à l'autre bout aussi, vous êtes en partenariat avec des institutions où quand vous constatez que la personne n'est plus en mesure de bénéficier de vos services, il y a une référence qui peut se faire.
Oui, bien, on travaille beaucoup. Toute l'instauration du service de gériatrie sociale se fait en collaboration avec les CIS, avec le réseau de la santé, mais aussi beaucoup avec les partenaires du milieu communautaire. Parce que quand on agit en prévention, bien, peut-être que la solution, elle est dans un autre organisme communautaire. Pas nécessairement la maison tournesol, on ne fait pas tout. Mais on a des partenaires communautaires qui vont avoir développé des réponses à d'autres besoins qui peuvent aider ces personnes-là.
Mais par exemple, dans peut-être des histoires à succès et autres, je lisais dans le dossier de presse qu'il y a une dame qui a pu avoir accès à faire en sorte que son appartement soit mieux aménagé pour ses besoins. Ça s'est fait en partenariat?
Oui, ça se fait en partenariat. Et je pense aussi à un exemple où les défis de santé de la dame étaient reliés au fait qu'elle vivait dans un sous-sol et qu'elle ne voyait pas que autour des fenêtres, il y avait la moisissure. Donc, elle avait des problèmes respiratoires, puis elle ne pouvait pas voir la cause. Alors, la sentinelle, en visitant la dame chez elle, en étant à l'affût de certains signaux, a pu lancer la navigatrice sur cette piste d'explication-là qui a permis au système médical d'avoir une réponse qu'il n'était pas en mesure d'aller chercher.
J'imagine que ce n'est pas toujours simple non plus avec les personnes âgées parce que ça y a tellement d'affects au niveau du vieillissement qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est la cause de quoi quand on est plus jeune. On a une santé en général quand même assez bonne. Et là, s'il y a quelque chose, c'est plus facile d'établir un diagnostic. Mais là, tout ça, comment dire, de faire le lien avec la moisissure sur les fenêtres, j'imagine que ça ne se fait pas automatiquement.
Ça ne se fait pas automatiquement, mais avec des sentinelles qui sont à l'affût de ces signaux-là, bien, c'est ça qui est magique dans le système. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les personnes âgées ont cette crainte de devoir quitter leur lieu d'habitation, d'être placées. Ouais. C'est un mot épouvantable pour eux. Et les organismes communautaires arrivent avec un côté beaucoup moins menaçant pour eux. C'est pas nous qui plaçons les gens. Ouais. C'est vraiment une perception d'accompagnement qu'ils ont de la part des organismes communautaires, ce qui facilite notre contact avec eux. Ils sont moins méfiants face
à... Moins méfiants que par rapport à quelles circonstances?
Que par rapport à une travailleuse sociale qui viendrait dire « Ah ben là, madame, c'est dangereux chez vous.
» Une travailleuse sociale qui serait plus dans le système de santé, par exemple?
Oui.
Okay. Et là, le système de santé, j'imagine, on parle de partenariat, j'imagine que c'est un partenaire financier également?
Oui, c'est le gouvernement du Québec est, un partenaire important des organismes communautaires en général, mais aussi à la Maison Tournesol, oui.
Est-ce que c'est votre principale source de financement ou il y a d'autres manières de vous financer?
Ah bien, c'est sûr que les gens intéressés peuvent nous faire des dons. Mm-hmm. On est un organisme de charité, on va émettre un reçu pour déduction fiscale avec plaisir. Mais il y a aussi des fondations qui nous soutiennent et différents paliers de gouvernement.
Si on a envie de vous soutenir avec notre cœur et notre temps, comment on peut vous aider?
La Maison Tournesol, c'est aussi plus de 50 bénévoles chaque année qui viennent nous soutenir par différentes actions. Presque toute la production qui est faite dans notre cuisine sort de la tête, des mains, de l'imagination de nos merveilleuses personnes bénévoles. Il y a aussi beaucoup de travail, si je pense juste à l'implication sur le conseil d'administration, à la réception de l'organisme. La maison, c'est un immense édifice pour donner tous ces services-là. C'est un grand édifice qui est en partie maintenu en bon état avec l'aide de personnes bénévoles. Donc, il y a beaucoup de façons de s'impliquer et il y a par la gériatrie sociale en souhaitant devenir sentinelle, en ayant à cœur le mieux-être des personnes âgées. C'est une façon de soutenir la maison et la communauté.
Mais je me rappelle quand j'avais reçu le docteur Lemire qu'on pouvait s'inscrire à une formation pour devenir sentinelle. Donc, les auditeurs qui en ce moment nous écoutent et qui sont sensibles à ce que Marie-Claude nous raconte, vous pourriez aller sur la Fondation Âge, je crois, vous inscrire.
Oui, sur le site de la Fondation Âge, on peut suivre la formation Sentinelle et ensuite, selon là où on habite, se rattacher à l'organisme qui offre le service de gériatrie sociale qui est le plus près de chez soi.
On parlait tout à l'heure du partenariat milieu communautaire, milieu plus institutionnel. Et c'est quand même drôle parce que la maison Tournesol qui portait le nom des loisirs thérapeutiques Saint-Hubert avant, finalement, ça a été fondé par une ancienne préposée de CLSC.
Oui. Oui, qui voyait qu'il y avait des besoins.
Qui n'étaient pas nécessairement couverts, justement, ben, oui, par le système de santé public.
Oui. Oui, parce qu'en 1981, la fondatrice a fait se réunir des femmes, c'était très féminin à l'époque, ça l'est moins aujourd'hui, mais des femmes qui avaient perdu leur mari puis qui s'ennuyaient chez elles.
Oui.
Et de là est né ce constat que... en créant des amitiés, on se donne les moyens de rester en forme ensemble. Et c'est de ça qu'est née la mission de l'organisme.
On remercie Huguette Aubut.
Oui.
Donc, 1974. Et donc, au départ, quelques années, sous-sol d'église. Puis ensuite, ça a grossi.
Oui. Oui, ça a grossi. Puis pour... ajouter les services de répit parce que le conseil d'administration de l'époque voyait bien ces besoins-là qui grandissaient, leurs membres qui les informaient du besoin d'être accompagnés dans l'aide avec une personne qui a des atteintes cognitives. Donc, il y a eu mise en place du service de répit, puis là, avec la pandémie, mise en place de la gériatrie sociale, et des repas. Donc, c'est tout le temps de voir, d'être à l'affût des besoins de notre clientèle puis de s'ajuster à ces besoins-là pour répondre le mieux possible à leurs besoins.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur, Marie-Claude?
De la santé.
Oui.
La pour santé les personnes pour âgées, oui.
Pour vous et pour vous qui les soutenez. Votre site Internet?
Oui, à www.maisontournesolavecuns.org.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous nous sensibilisez à une réalité, comme vous dites, que ça fait longtemps qu'on l'a dit, mais là, on doit vraiment s'en occuper tous collectivement. Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté vos services et cette importance de s'engager aussi tous socialement. Donc, Marie-Claude Richer, directrice générale de la Maison Tournesol. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.